simple. Écoutez, Frédéric Seyss, nos deux invités doivent pouvoir traduire pâté en catalan. Barbara Loyer, directrice de l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8 et également spécialiste de l'Espagne. Et puis également Alicia Fernandez-Garcia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste, vous aussi, de civilisation espagnole à l'Université Paris Est Marne-la-Vallée. Pâté en catalan, ça se dit comment ?
Je sais pas, je parle pas catalan, donc malheureusement, je saurais pas vous dire.
Bon, ben peut-être qu'il n'y a pas de pâté catalan, vous savez aussi.
On se renseigne, on donne la réponse.
En tout cas, on donne la réponse demain. Voilà, en tout cas, tous les
points. C'est à suivre.
Alors. À suivre. On vous donnera, peut-être que les auditeurs peuvent nous indiquer également la réponse. Ce qui est certain, c'est que tous les politiques ne sont pas aussi ambigus que ceux que vous avez évoqués. Fut un temps où ils étaient même très tranchant, je pense, au temps du général Franco. Et on va vous faire entendre une archive de l'époque, tout simplement pour essayer de comprendre comment cette crise catalane, elle s'inscrit ou non, est dans l'histoire de l'Espagne. Voici donc des actualités du 13 mai 1942.
Le général Franco est l'hôte de la Catalogne, où dans chaque ville, une réception triomphale accueille le chef de l'État espagnol. Tous, des plus riches aux plus pauvres, apportent des cadeaux symboliques au général Franco, tenant ainsi à manifester leur reconnaissance à celui qui releva l'Espagne de ses ruines.
Depuis le début de cette crise catalane, j'ai entendu des choses terribles, y compris des historiens dire qu'il y a aujourd'hui un risque de crise majeur en Espagne, de guerre civile, j'ai entendu le mot, et évidemment la guerre civile, cela fait frémir lorsque l'on songe à l'Espagne. Est-ce votre sentiment, Alicia Fernandez-Garcia ?
À mon avis, je pense que la crise catalane a été très mal gérée par les élites politiques espagnoles. Du côté de l'exécutif régional en Catalogne, on a vu se succéder vraiment des déclarations unilatérales. Du côté du gouvernement de Madrid, on a toujours privilégié le conflit, donc on a toujours refusé le dialogue, on s'est retranché derrière la légalité, derrière la Cour constitutionnelle pour faire blocage. Donc... En plus, avec le discours du roi, et on a vu en fait qu'il a essayé de valider, ou il a validé quelque part, il a légitimé le blocage de Madrid, non ? Il a légitimé ce langage de violence, la dureté des propos de Mariano Rajoy à l'égard des Catalans. Donc on voit quand même comment les élites politiques sont espagnoles, sont vraiment dans la surenchère du mépris et vraiment de la crispation, alors que la situation pousse carrément et au dialogue. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je pense que le problème est majeur, c'est que le gouvernement espagnol ne considère pas la situation de la Catalogne, enfin la situation catalane, comme un problème politique à résoudre. Je pense que c'est vraiment la clé, mais comme une sédition et comme une révolte qu'il faut absolument écraser, empêcher avec tous les moyens et par tous les moyens.
Mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que l'histoire de la Catalogne est émaillée par ces questions-là. Alors, une date peut-être que l'on pourrait retenir, c'est 1906, puisque c'est à partir de cette époque-là, Alicia Fernandez-Garcia, que se formalise en quelque sorte l'idée de l'indépendance de la Catalogne. Et à partir de ce moment-là, eh bien, cette volonté d'indépendance, elle va se heurter au souhait de Madrid.
Oui, je pense que c'est vrai qu'il faut faire un petit rappel historique. Le nationalisme catalan a toujours existé, c'est là depuis le 19e siècle, sauf que à la base, il s'agissait d'un nationalisme qui allait promouvoir, qui allait revendiquer la langue et la culture catalane, donc dans le cadre d'un mouvement qui s'appelait la Renaissance. Et ensuite, ce nationalisme catalan, donc linguistique, culturel, s'est cristallisé sur la reine politique et catalane de la région, et donc cela s'est transformé en catalanisme politique. Donc on voit quand même l'aile politique du catalanisme. Donc ensuite, ce catalanisme politique visait vraiment, était pluriel. La principale caractéristique, c'était vraiment sa pluralité, et sa capacité à nouer des alliances, à faire des compromis pour dessiner une nation catalane. Et la différence, c'est que si le nationalisme catalan a toujours existé, l'indépendantisme, en revanche, a été toujours limité dans le temps.
Qu'est-ce que serait qu'un nationalisme qui ne voudrait pas l'indépendance ?
le nationalisme catalan a toujours voulu défendre la nation catalane, mais toujours dans le cadre de l'État espagnol. L'indépendantisme, on est quand même loin de cela. On veut carrément vraiment se séparer de l'Espagne. Donc c'est vraiment un pas en avant et quelque chose de nouveau, puisque, comme je viens de le dire, l'indépendantisme est vraiment limité dans le temps, deux épisodes, pendant la Seconde République et aujourd'hui. Il a été restreint à un seul parti politique, aujourd'hui Esquerra Republicana de Catalunya, qui cherche vraiment l'indépendance de cette région.
Cette volonté d'indépendance, elle s'est heurtée à deux pouvoirs forts, autoritaires en Espagne. Primo de Rivera, donc au début des années 20, dès 1923, Primo de Rivera dit que cette indépendance de la Catalogne est une hérésie. Et puis, évidemment, Franco, pourquoi ces deux pouvoirs ne voulaient-ils pas du nationalisme catalan ?
Parce qu'ils ont toujours privilégié le nationalisme espagnol. C'est quelque chose qu'on voit maintenant et qu'on voit se développer depuis les années 90 et dans la droite et conservatrice du Parti populaire. Il faut faire un petit rappel. Le nationalisme espagnol a toujours été rejeté par les élites politiques espagnoles pendant la transition démocratique, parce qu'on considérait que le nationalisme espagnol était très proche et du franquisme. Donc c'est quelque chose.
On avait raison, on avait tort.
On avait raison, tout à fait. Parce que
pour
Franco,
vous, on avait raison.
Voilà, Franco, il a éradiqué toute culture différente à la soi-disante culture espagnole.
Je vais vous poser la question brutalement, puisqu'on entend votre sympathie pour les thèses indépendantistes, Alicia Fernandez-Garcia. Est-ce que pour vous, l'Espagne est une fiction ? Est-ce que pour vous, l'unité de ce pays, qui semble évidente pour le roi, doit être remise en cause ?
Je pense que les Espagnols montrent très bien et la complexité de l'Espagne. Non, il faut savoir que l'Espagne, c'est une nation des nations, donc et l'Espagne est un pays plurinational et un pays avec des communautés autonomes, donc dans un cadre autonomique. Donc c'est vrai que ces derniers jours, quand on voyait les manifestations, on voyait énormément de drapeaux espagnols, mais c'est vraiment c'est contradictoire et en même temps c'est nouveau, parce que quand on va demander à un Espagnol comment vous vous sentez, comment tu te sens, il va vous dire moi je suis de ma ville, ensuite de ma région, et ensuite à la fin je suis espagnol. Donc on voit comment ces discours nationalistes espagnols. Et on le voit aujourd'hui, mais c'est vraiment un nationalisme espagnol des circonstances.
Mais il va falloir me l'exprimer plus clairement, parce qu'en France, par exemple, on trouve des Bretons qui sont très Bretons, des Corses qui sont très Corses. Et pour autant, même s'il y a des indépendantistes dans ces deux régions, j'ai l'impression que l'unité du pays, elle n'est pas véritablement discutée pour le cas français. Est-ce que vous pensez que l'Espagne est un assemblage hétéroclite de régions qui finalement ne devraient pas être ensemble ?
Oui, je pense qu'on doit être ensemble, on a toujours été ensemble, mais l'Espagne, c'est un pays plurinational. Donc il faut comprendre que quand on se sent espagnol, avant de se sentir espagnol, on va se sentir madrilène, on va se sentir catalan, on va se sentir de notre région, et ensuite on va se sentir espagnol. Donc c'est vraiment la particularité du nationalisme, de l'Espagne autonomique.
Barbara Loyer, ce qui pose là aussi un autre problème et qui complexifie la chose, c'est qu'on l'entend, le nationalisme espagnol, il a souvent été marqué à droite et même très à droite dans le cas franquiste. Là, on voit Podemos qui serait plutôt hostile, j'ai dit plutôt, à l'indépendance de la Catalogne, finalement, qui rejoindrait peut-être le rang de ceux qui pensent que l'Espagne doit demeurer unie. Dites-nous à quel point ce clivage droite-gauche, il est ou non opérant pour comprendre la crise que traverse l'Espagne aujourd'hui ?
Non, je ne pense pas. Enfin, il n'éclaire pas, parce que le clivage droite-gauche aujourd'hui révèle des stratégies de pouvoir à l'échelle nationale. Podemos voudrait prendre le pouvoir à la place du Parti Socialiste ou à la place de Mariano Rajoy, donc du coup va s'allier avec des nationalismes régionaux, et pour ça ça révèle aussi des stratégies de pouvoir à l'intérieur des régions, et du coup de l'essentialiser droite-gauche masquerait des stratégies d'acteurs assez complexes. Sur la question de l'histoire, je pense qu'il faut admettre que l'Espagne est un État très ancien et qui est très compliqué, dont l'histoire a été très compliquée.
Mais les Catalans, pardonnez-moi, je vous ai coupé, les Catalans disent finalement on est plus ancien que l'Espagne.
Avec cette crise-là, pour la première fois, j'ai entendu des gens dire que l'Espagne avait 2000 ans. puisque les catalanistes disent que les Catalans en ont 1000. Alors, si vous voulez.
Ça fait moitié moins, mais alors, par exemple, les Catalans.
Mais j'avais jamais entendu ça avant, c'est ça qui est intéressant. Alors,
moi, j'ai entendu dire, par exemple, que les Catalans considéraient qu'ils étaient liés au roi Visigoth. Les Visigoths, donc, c'est une invasion liée à l'Allemagne, avec probablement pour ces Catalans-là. Un lien entre le nom même de la Catalogne et les Goths. Alors les Catalans, se disent qu'à partir de là, la première invasion des rois Visigoths et remontant, je crois, au 7e siècle avec le roi Récared. Là, on est vraiment face à des choses très anciennes aussi et une région qui serait autonome et homogène depuis cette époque-là. Est-ce que c'est une fiction, Barbara Loyer?
Homogène, certes, ça c'est une fiction. C'est la Catalogne, c'est une région de passage sur la Méditerranée, donc tout le monde est passé là. Donc ça c'est forcément une fiction.
Y compris les Visigoths.
Y compris les Visigoths. Et donc c'est une fiction au sens où la nation est une représentation géopolitique qui élimine tout ce qui ne va pas dans le sens d'un récit national. Toutes les nations construisent des récits nationaux. Ce qui est, si vous voulez, un petit peu préoccupant, c'est l'idée qu'en 2017, les Visigoths comptent dans la politique contemporaine.
Et écoutez, en France, j'ai entendu parler des Gaulois dans la politique contemporaine.
Et donc, je pense que c'est en effet une des questions en fait, que pose cette crise-là. Elle se pose pour tous les citoyens européens. De la même manière qu'au XIXe siècle, Ernest Renan avait dit pour la France, une nation, c'est ce qu'on oublie. Elle est constituée aussi de tout ce qu'on veut bien oublier, de toutes les guerres qu'on veut bien oublier pour arriver à rester ensemble. Là, on se dit que si on est dans un processus de construction européenne, est-ce que franchement, on s'installe dans des conflits dans lesquels l'objectif est de faire une frontière et qu'il y ait un État, un peuple sur un territoire? C'est la question qui peut se poser pour des citoyens européens de 2017.
Oui, mais Renan, dans le même temps, disait que la nation était un plébiscite de tous les jours et le fait d'invoquer les Visigoths, ce qui peut faire sourire puisque quand on remonte au 7e siècle pour fonder une politique aujourd'hui, ça peut paraître complètement dérisoire. Même si, encore une fois, j'ai entendu parler des Gaulois dans le débat politique français, cela signifie quelque chose de fort. Ça signifie finalement qu'on s'assimile aux envahisseurs du pays, donc là, en l'occurrence, ces Visigoths, pour réussir à fonder une légitimité à une région, Barbara Loyer.
Oui, il y a un récit nationaliste catalan qui d'ailleurs a été bien diffusé dans les écoles puisque la Generalitat contrôle les écoles et que l'enseignement se fait en catalan, comme il y a un récit de la nation espagnole. Mais vous pouvez faire un récit de la participation de la Catalogne à l'histoire d'Espagne, comme vous pouvez faire un récit de tous les grands hommes originaires du Pays Basque qui ont construit l'Espagne. Alors après, il est vrai que le 19e siècle a été particulièrement compliqué en Espagne, il a été même calamiteux. On appelait chaque camp gagnait les élections, ils rédigeaient une constitution qu'ils appelaient des avalmoissa. Donc si vous voulez, dans le...
Avalmoissa.
Donc c'était la constitution, c'est le truc qu'on obligeait le camp adverse à avaler, puis après on en faisait une autre qui ressemblait pas à la même. Beaucoup de coups d'État, une importance de l'armée, une grande difficulté à la société libérale voulant monter une démocratie à s'imposer, une monarchie pas à la hauteur. Donc si vous voulez, on a un 19e siècle très compliqué, mais qui à un moment donné par exemple aussi a créé un sentiment d'union à l'intérieur de l'Espagne. Lorsque Napoléon a voulu conquérir l'Espagne, là vous avez eu une union, y compris en Catalogne, pour rejeter Napoléon. Il se trouve qu'après, par exemple, les Espagnols n'ont pas participé à la guerre 14-18. Donc vous avez toute une histoire. Donc il n'y a pas là d'union sacrée contre un envahisseur contemporain. Donc c'est une histoire du 19e et du 20e siècle très compliquée.
Alicia Fernandez-Garcia, vous, comment vous voyez cette identité catalane? Est-ce qu'il faut remonter, pas à Mathusalem, mais au Goth? Est-ce que ça a un sens? C'est vraiment sérieux de devoir invoquer des périodes aussi reculées pour déterminer si une région doit être indépendante aujourd'hui?
Je pense que, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais que cette tentative à dater justement une nation et est une stratégie de la, de la construction d'un récit national qui est fait de l'autochtonie vraiment un totem. Donc c'est ça qu'on cherche, on cherche à dater les racines, on cherche à savoir d'où on vient, donc c'est vraiment ce récit de l'autochtonie.
Sachant que ce récit-là, il n'est jamais neutre non plus. Regardez, voilà. En France, par exemple, ça a un sens politique si on remonte à Clovis ou à Vercingétorix.
C'est une preuve du nationalisme espagnol et catalan qui vont chercher à travailler la société espagnole, qui travaille la société espagnole et catalan et depuis longtemps. Donc pour synthétiser, vraiment le récit nationaliste cherche vraiment à travailler la société, donc à divulguer ce récit nationaliste d'autochtonie.
Mais alors, ce récit, si aujourd'hui on prend du champ et on voit la manière dont il s'articule politiquement, parce que les choses là aussi ne sont pas complètement clair. On sait qu'il y a souvent des collusions qui peuvent être plus ou moins sympathiques entre des partis indépendantistes et ou bien des pouvoirs économiques ou bien des pouvoirs économico-mafieux. J'ai rappelé les méfaits de Jordi Pujol qui pendant longtemps a incarné la Catalogne. Ceci n'est pas apprécié par les partisans de l'indépendance de la Catalogne qui se demandent pourquoi il faut invoquer des choses vieilles de 20 ans pour salir l'idée catalane. Mais aujourd'hui, vous en pensez quoi finalement, Alicia Fernandez-Garcia? Est-ce que la Catalogne finalement, dans ce souci de devenir indépendante, est aussi indépendante d'un certain nombre de pouvoirs obscurs ou mafieux?
Je pense que tout cela montre vraiment le clivage social et politique. Donc la question catalane est une source de débats et de divisions, aussi bien dans l'arène politique qu'au sein de la société. Dans l'arène politique, et si l'axe fédérateur c'est vraiment un désir indépendantiste, sécessionniste, on voit comment les mesures et puis les attitudes varient d'une force politique à une autre. Au sein de la CUP, de ce parti d'extrême gauche, ils vont vouloir carrément imposer l'indépendance, et même si elle va être déclarée de façon unilatérale. Au sein du parti de Carles et Puigdemont, et en fait, on a deux branches, on a deux versants. Il y a un versant qui va vouloir absolument l'indépendance, et puis un autre versant qui va dire, bah non, on va faire pause, et puis on va peut-être et vouloir proclamer et célébrer des élections qui vont nous permettre d'avoir une majorité, et puis de nous débarrasser de cet allié, donc de la coupe, qui s'avère parfois gênant, et lors des négociations avec les acteurs internationaux. En plus, au niveau de la société, on a aussi des divisions, donc la Catalogne a toujours été une région très divisée d'un point de vue social. Donc on a les indépendantistes, c'est vrai, on a les non-indépendantistes, c'est vrai, et on a cette minorité silencieuse que maintenant on appelle les unionistes, qui cherchent vraiment, qui sont entre les deux en fait.
Et le pouvoir économique, il est de quel côté?
Bah, je pense que le pouvoir économique, c'est un cas isolé, non? Et je pense que le pouvoir économique n'a pas d'idéologie. On l'a vu ces derniers jours, non?
Il n'a pas d'idéologie, mais il a des intérêts. Et peut-être idéologies de ses intérêts.
Oui, justement, c'est ça qui vont essayer de mettre en place, non? Ils vont penser que à leur intérêt, mais il faut aussi savoir.
Et leur intérêt, il est où, d'après vous ou d'après eux?
Bah, si la situation se complique un peu, bah, on s'en va, on part. Donc, on l'a vu, les entreprises en Catalogne.
Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, il y a de grosses entreprises. Il y a Mango, par exemple, une grosse entreprise d'habillement qui est située aujourd'hui en Catalogne. Et il y a beaucoup de grosses entreprises qui ne peuvent pas déménager comme ça leur siège du jour au lendemain.
Oui, mais ils ne veulent pas rester dans une situation instable. Ils n'aiment pas l'instabilité, ils n'aiment pas le vide. Donc, et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vont avoir du mal. Hein, et on sait que les entreprises catalanes, plus de 40% de leur commerce, ils le font avec l'Espagne, presque autant avec l'Union européenne. Donc c'est vrai, ça pose un problème économique. Donc on craint une décadence économique, mais je pense que c'est un monde, l'économie, c'est vraiment un monde parallèle, et je pense qu'ils ont aussi leurs lois, ils ont aussi leur façon de faire.
Non. Alors justement, vous faites écho à l'idée européenne en disant ils ont 40% de leurs échanges avec l'Europe. Si on fait un peu de politique fiction et que la Catalogne devient indépendante, est-ce que vous pensez que la Catalogne se sentira indépendante en Europe, ou est-ce que l'idée européenne est très éloignée de la représentation du monde que se font les indépendantistes catalans?
Je pense que les Catalans, ils sont très européens, non? On l'a vu ces derniers jours, et puis depuis quelques années, la Catalogne met en place une paradiplomatie puissante, et en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe, parce qu'en fait, ils vont chercher de s'attirer des soutiens et leur permettant d'avoir des alliés qui puisse peut-être valider cette déclaration d'indépendance. Donc il ne faut pas oublier que les Catalans, et ok, peut-être qu'une partie va vouloir quitter l'Espagne, mais une autre partie va vouloir rester en Espagne, mais ils vont tous vouloir rester dans l'Union européenne.
Barbara Loyer, votre point de vue à ce sujet, est-ce que finalement les Catalans se sentent beaucoup plus européens qu'espagnols, et puis l'indépendance de la Catalogne, ça serait une recomposition avec un État qui, on l'a vu, serait du point de vue économique au 13e rang européen hein, entre la Finlande et le Portugal, ce qui en fait un pays plutôt viable?
En fait, je pense que cette crise nous a montré qu'on ne peut plus véritablement parler des Catalans comme un ensemble homogène. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la crise aussi a montré à quel point, en effet, les milieux économiques avaient essentiellement besoin de stabilité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la bourgeoisie catalane s'est accommodée assez rapidement du régime franquiste, que un des papes de la littérature catalane, Josep Pla, écrivant en catalan, était aussi franquiste, parce que il sortait d'une période des années 30 où les anarchistes avaient pris le pouvoir et qu'il leur fallait de l'ordre pour les affaires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans doute, il a été inconcevable pour les partis politiques espagnols d'envisager tout ce qui pourrait se passer, puisque j'imagine que la plupart d'entre eux se disaient que justement les milieux économiques de Catalogne ne soutiendraient jamais un processus qui aille si loin et qui puisse provoquer ces départs en cascade d'entreprises. Le groupe Planeta, suite à la déclaration d'hier de Puigdemont, Planeta, c'est un groupe éditorial énorme, a dit que dans ces conditions-là, il partait. Donc, si vous voulez, je pense que ça fait partie aussi des éléments d'aveuglement des grands partis espagnols qui se sont dit, de toute façon, les milieux économiques catalans ne suivront pas. Et je crois qu'il y a une interrogation, une incompréhension face au fait qu'une idée géopolitique forte comme la nation puisse amener à des entrepreneurs à être quasiment kamikaze, parce qu'à court terme, c'est extrêmement dangereux sur le plan économique. Il faudra faire le schéma d'acteurs de vraiment tous ceux qui ont été à la manœuvre. Il y a sans doute plus d'écoles blancs que véritablement des entrepreneurs. Mais en tout cas, on peut remarquer qu'ils ont mis très longtemps à réagir. Ils n'ont pas stoppé le processus avant. Ce qui pose des interrogations, ce qui était surprenant.
En conclusion, Alicia Fernandez-Garcia, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un peu de voyance, s'il vous plaît.
C'est vraiment le grand saut dans l'inconnu. On ne sait pas trop, parce que je pense que cette déclaration d'indépendance relève justement plus de l'improvisation que d'un projet défini, réfléchi et posé. Donc on verra. Et les Carles et Puigdemont ont tendu la main à Madrid. Il a essayé de concilier tout le monde. Il s'est montré ferme à l'égard de ses projets indépendantistes, mais il a en même temps montré sa volonté à envisager un dialogue. On verra qu'est-ce qu'il va faire à Madrid.
Barbara Loyer, un peu de voyance, vous aussi?
Oui, moi je ne parlerai pas vraiment de main tendue, je parlerai de pause dans un processus qui ne contrôlait plus. Je pense qu'ils savent que le gouvernement espagnol ne peut pas se mettre au même niveau qu'un gouvernement régional, elle ne le fera pas. En revanche, ça met en place donc un contexte dans lequel le sentiment d'être victime et pas écouté peut de nouveau repartir sur la base du refus du gouvernement espagnol.
Quelques notes de l'hymne catalan, sans que vous puissiez y voir un engagement politique des matins de France Culture, uniquement une manière d'accueillir mes camarades que je vous présente, Aurélien Bélanger et Mathilde Serrel.